autour de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation, autour de la question du mal. Pourquoi nos robots nous reposent aujourd'hui cette lancinante question du mal? Et comment y répondre? Comment ne pas diaboliser nos machines, robots domestiques et autres systèmes informatiques embarqués dans nos smartphones, nos ordinateurs connectés et jusque dans nos véhicules bientôt autonomes? Face à un robot délateur qui connaît tous les secrets de nos vies, ou pire, face à un robot tueur, un véhicule autonome par exemple, qui est responsable? Et pourquoi la réponse à cette question compte parmi les défis les plus urgents à relever dans notre rapport aux technologies numériques? Pourquoi cela nous concerne tous? Et pourquoi cette question des robots et du mal nous renvoie au grand mythe de notre humanité, à notre responsabilité et in fine à notre éthique? Voilà ce que nous allons nous demander avec le physicien philosophe Alexei Greenbaum qui vient de publier « Les robots et le mal » autour de la question « Comment repenser le mal à l'ère numérique ?» Bienvenue. Bonjour Alexei Greenbaum.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous pour partager vos pistes de réflexion philosophique et éthique sur les robots et le mal. C'est le titre de l'essai que vous venez de publier aux éditions Desclés de Brouwer, ouvrage dont nous avons un exemplaire à vous faire gagner, chers amis auditeurs, avis aux amateurs. Alexei Greenbaum, vous êtes physicien et philosophe, chercheur au CEA, au laboratoire LARSIM à Saclay, où vous travaillez sur les fondements de la mécanique quantique. Vous êtes aussi très impliqué dans les questions éthiques posées par les nouvelles technologies, membre de la commission de réflexion sur l'éthique de la recherche en sciences et technologies numériques. Et puis étonnamment, sur la couverture de votre livre, aucune image de robot, mais plutôt celle mythologique d'Adam et Ève croquant la pomme. Il faudrait donc aujourd'hui, Alexei, revisiter cette très ancienne question du mal, renouvelée, reposée par l'omniprésence des robots et des technologies numériques. Il faudrait revoir à la lumière de nos mythes une humanité confrontée finalement depuis toujours à la lutte entre le bien et le mal, et capable aussi, cette humanité, du meilleur comme du pire.
Effectivement, elle est cette pomme entre les mains d'Adam et Ève sur le tableau de Lucas Cranach que j'ai choisi pour la couverture du livre. Mais cette pomme, bon, si on traduit en anglais, pomme, ça donne apple, donc elle est à la marque à la pomme, apple. Et effectivement, il y a 10 ans, la couverture de The Economist, vous savez, ce magazine lu dans le monde entier.
Hebdomadaire financier, économique, britannique.
Très connu. Il y avait Adam et Ève. Et entre leurs mains, on voyait non pas une pomme, un fruit qui pousse naturellement sur un arbre, mais un iPhone. Et donc, dans cette métaphore de la condition humaine, quelle est la modification, quel est le changement, quel est l'apport de la technique, de la technologie, en particulier des technologies numériques? C'est la question centrale de la réflexion éthique et aussi la question centrale de mon livre.
Quel est l'apport de ces technologies et pourquoi finalement nous les diabolisons? La manchette de ce livre, c'est « Ne diabolisons pas les machines ». On a tendance très vite, nous humains, à diaboliser, à mettre le mal, ce vieux mal qui nous suit depuis toujours, sur nos machines.
Et aussi le bien, l'utilité,
et
parce
aussi
que
le
ces
bien,
machines
absolument.
Font beaucoup de choses. Et donc en fait, nous projetons sur ces machines, qui ne sont pas des personnes, ce ne sont pas des êtres libres et autonomes comme les hommes, mais nous projetons sur eux des qualités, des émotions qui sont les nôtres, y compris le bien et le mal. Et la question ici, ça n'est pas tellement quel mal habite la machine, mais quel mal émerge dans notre rapport, notre relation avec la machine. Ce sont des concepts qui viennent de ces relations, on peut dire relationnelles, ou comme je dis un peu, de façon un peu plus savante, corrélatives. Donc c'est-à-dire des concepts qui n'ont pas tellement de statut ontologique. Ça n'a pas beaucoup de sens de se demander ce que c'est le mal pour le robot lui-même. Bon, on peut peut-être partir un peu dans l'imagination, mais ce qui est important, c'est d'abord se demander quels sont les concepts du bien et du mal qui émergent dans notre interaction avec les machines autonomes.
Et ces machines autonomes qui sont omniprésentes, allez, on va y aller, comme le bien et le mal, comme Dieu et Satan. En tout cas, c'est toujours la faute des robots. Au cinéma, depuis les années 2000, la preuve dans ces extraits, remixés des bandes-annonces de iRobot et AI, intelligence artificielle, remixés sur grand écran et sur nos grandes ondes.
Nous leur confions nos maisons. Notre mode de vie. Notre monde. Mais avons-nous raison de leur faire confiance? À une époque où l'homme est devenu dépendant des robots, pour satisfaire le moindre de ses besoins,
l'homme nous a fait meilleurs dans notre spécialité, plus qu'il n'a jamais été humainement possible.
La science va créer un nouvel ordre d'être artificiel.
Tu es une machine.
Je suis un garçon.
Impossible.
Plus intelligent, plus sensible et plus humain que nous-mêmes.
Vous voulez réagir, Alexei Grimbaud ?
Alors oui, je souriais un tout petit peu, parce que justement, plus intelligent, plus sensible, on est toujours dans la compétition. Mmh. Ah, elle sera meilleure que nous, ce robot, cette machine. Mais en fait, pour moi, la question centrale n'est pas du tout celle de la compétition, mais de l'imitation mutuelle qui va dans les deux sens.
Parce imitation que, oui, mutuelle, c'est comme, parce qu'en
attends,
fait...
Je m'explique. Allez-y, oui, parce oui. que justement, on peut dire l'homme reste ce qu'il était, et puis la machine qui sera plus forte, plus intelligente, et il y aura de la compétition entre eux. Mais non, l'homme ne reste pas ce qu'il était avant. Mmh. La machine, bien sûr, imite l'homme parce qu'elle apprend de l'homme. Mais l'homme aussi, quand il interagit avec la machine, il imite ce que fait la machine. Alors, les machines ont appris à nos adolescents d'utiliser le langage SMS, par exemple. Bon, le langage SMS, clairement, nous vient des valeurs de la machine, la compression, etc. Et puis, il y a plein de situations où l'homme qui a interagi avec un robot, par exemple, commence à répéter ses gestes, où on utilise les mots, les phrases, encore une fois, comme les robots. Donc, l'homme ne reste pas comme il était avant.
C'est une coévolution, comme on parle de coévolution entre hommes et animaux, par exemple. C'est une forme de coévolution, ça nous change.
Tout à fait, ça nous change. Et alors, nous imitons aussi la machine. Ce qui est intéressant, c'est que l'autre, dans cette relation, n'est pas un être libre, n'est pas un animal qui reste un être vivant, mais c'est un être fonctionnel, c'est un être qui est là pour faire quelque chose, afin de faire quelque chose. Et ses qualités, ses émotions, c'est nous qui les projetons sur la machine et pourtant nous les imitons. Donc cette imitation par rapport à un être fonctionnel, comment la penser, quelles sont les conséquences, ces sont les questions que je me suis posées avant d'écrire ce livre.
Sacrée question, alors justement pour les aborder, pour comprendre, il faut justement comprendre ce que font les machines. Vous dites, Alexei Grimbaud, l'oreille de notre intelligence humaine doit devenir plus fine ou aussi fine que l'oreille d'un mélomane, capable de reconnaître une même mélodie jouée au piano ou au violon, comme dans cet extrait d'une sonate de Beethoven que vous vouliez nous faire entendre. Vous allez nous expliquer pourquoi ensuite. Quelle analogie, quelle homologie faites-vous, Alexei Grimbaud, entre cette sonate pour violon et piano de Beethoven, interprétée par Oistrakh, et la question des robots et du mal?
Oistrakh et Richter, justement, ils sont deux. Il y a un violoniste et un pianiste, et c'est très important, parce qu'on entend la même mélodie, le même motif, jeu piano, jeu violon. Alors, physiquement, on dit acoustiquement, le son n'est pas le même du violon et du piano. Et pourtant, on n'a aucun problème à reconnaître la même mélodie dans cette sonate de Beethoven.
Et ce qui est joué par le violon et ce qui est joué par le piano.
Voilà, la même mélodie qui se répète sur les deux instruments. Alors maintenant, pour penser les nouvelles technologies, le rapport au bien et le mal, comment peut-on faire? Parce que le contexte technologique est nouveau. On n'a jamais eu avant de machines autonomes comme ça, des agents conversationnels qui nous parlent, des robots. On ne les a jamais vus avant. Donc, d'où peut-on tirer, où peut-on trouver ces notions de bien et de mal? Et là, je dis, comme avec le violon et le piano, il faut chercher un autre contexte où aussi on trouve des êtres fonctionnels comme les machines. Mmh. Et c'est le contexte des mythes. Dans les mythes, il y a les anges et les démons. Les anges et les démons sont des êtres fonctionnels des mythes. Alors, on peut-être, si on regarde de près, apprendre quelque chose sur l'éthique des êtres fonctionnels dans ce contexte mythologique. Alors, quel est le jugement du bien et du mal avec les êtres fonctionnels. Apprenons peut-être une petite leçon, un petit enseignement du côté des mythes et voyons si cet enseignement peut être transposé par ce que j'appelle, comme vous avez dit, l'homologie, non pas l'analogie, mais l'homologie, si on peut transposer cet enseignement sur l'éthique des êtres fonctionnels sur le cas des systèmes autonomes informatiques. Et je pense que oui. Et je pense que pour sortir de la paralysie de la nouveauté, parce que quand on nous dit, bon, c'est du jamais vu, ce sont des systèmes qui vont bouleverser vos vies, c'est complètement nouveau. Mmh. Alors, où peut-on trouver une éthique nouvelle? Mais non, il n'y a pas d'éthique nouvelle.
Il faut aller rechercher dans les mythes.
Il faut aller chercher ces concepts du bien et du mal. Il faut aller chercher cette analyse éthique dans les mythes sur les êtres fonctionnels. Pour les appliquer aux êtres fonctionnels.
Anges, vous dites, hein, les anges et les démons par rapport aux hommes,
exactement.
Les dieux
et c'est pour ça
et les diables.
Pour moi, le diable, Satan, c'est un être fonctionnel qui a des fonctions, comme d'ailleurs les anges aussi. Les anges parfois communiquent des messages, parfois ils accompagnent quelqu'un dans un voyage, etc., etc. Mais les anges et les démons sont toujours présents dans les mythes afin de faire quelque chose. Il a toujours une fonction, ils ne se promènent pas librement. Et donc, les machines aussi sont toujours là pour nous afin de faire quelque chose. Les machines réalisent des fonctions. Et quelle est leur éthique? Essayons de transposer une leçon qu'on trouve dans les mythes.
Allons rechercher dans les mythes pour comprendre comment nous reposer la question et du mal, du bien et du mal hein, via nos machines. Mais comment la repenser cette question? Vous citez d'ailleurs l'exemple de la première victime, du premier mort dû à un algorithme, en l'occurrence à un véhicule autonome de la société Uber en Arizona. Petit rappel des faits et vous réagirez ensuite, Alexei Greenberg.
La vidéo de l'accident a été diffusée. Le SUV d'Uber était en mode autonome quand il a percuté dans la nuit une femme qui traversait la route avec un vélo dans la banlieue de Phoenix. Dans l'habitacle du véhicule, l'opératrice d'Uber a réagi au dernier moment. L'hypothèse d'un problème de capteur ou de logiciel semble être privilégiée par les enquêteurs. La société de VTC a depuis suspendu ses tests de voitures autonomes qu'elle menait dans plusieurs villes nord-américaines.
C'était le 18 mars 2018. C'était la première fois qu'un piéton est mort et ça pose question évidemment pour le développement de ces véhicules autonomes. Alors comment faire appel à quoi pour savoir quoi faire face à notre responsabilité? Elle est où d'ailleurs là-dedans?
Alors aux États-Unis, bien sûr, d'abord on fait appel à un tribunal. Donc on porte ce cas devant un tribunal, ce qui s'est produit. Quel pourrait être un jugement? Alors jugement de responsabilité partagé entre le concepteur, entre l'utilisateur, entre le propriétaire, mais aussi, c'est très important, il y a un nouveau type d'agent. Il y a celui qui a sélectionné les données pour l'apprentissage, celui qui a paramétré l'apprentissage de l'algorithme. Et ça n'est pas nécessairement celui qui a écrit le code. Donc, il y a le programmeur, il y a aussi, on peut dire, l'entraîneur, celui qui sélectionne les données. Et donc, la responsabilité
pour les faire rentrer dans la machine pour l'apprentissage profond.
Voilà. Parce qu'un véhicule autonome apprend sur des données qui proviennent des millions et des millions et des millions de kilomètres parcourus par d'autres voitures dans le monde entier. Mais, alors ce qui est très intéressant, et c'est pour ça d'ailleurs que j'applaudis Uber dans ce cas-là, Uber a préféré de débourser une somme d'argent très très importante pour ne pas porter ce cas devant un tribunal en disant « c'est trop tôt ». Pour fixer les règles du jeu. Les voitures autonomes, bon, ça commence en Arizona, il y a des voitures qui roulent déjà, mais on n'est pas encore là pour faire la nouvelle loi. Donc,
ne légiférons pas tout de suite.
Donnons-nous un peu plus de temps pour savoir quelles nouvelles normes émergeront de la pratique de l'utilisation des voitures autonomes. Donc Uber a préféré, bon, peut-être sauver un peu aussi sa réputation.
Certainement.
Mais bon, ça c'est l'histoire de cette compagnie-là, mais quand même, je pense qu'il est important de ne pas aller trop vite, de ne pas créer de règles une fois pour toutes qui seraient un peu rapides. Alors, responsabilité partagée, aujourd'hui, on pense que c'est juste le concepteur, mais il y a aussi un problème, c'est que le concepteur ne sait pas toujours ce que va faire sa propre voiture autonome, parce qu'elle est autonome. Et le concepteur n'a pas la connaissance du comportement de la voiture dans tous les cas de figure.
Et parce que justement, c'est une machine.
C'est une machine qui est autonome, qui apprend et qui prend des décisions toute seule.
Qui veut m'apprendre de ses expériences.
Alors la question se pose un concepteur peut-il être responsable s'il n'a pas la connaissance, il n'a pas formé l'intention de tel ou tel comportement de son produit, donc de la voiture autonome. Et c'est très intéressant parce que là, du coup, la question de la responsabilité porte sur un rapport de connaissance, non pas tellement sur un rapport de propriété. On a l'habitude de dire « vous êtes propriétaire de tel objet ou de tel système, donc vous êtes responsable de ce qu'il fait ». Alors là, pas tout à fait, parce que vous pouvez bien être propriétaire, mais si vous n'avez pas la connaissance, votre responsabilité n'est pas entière. Elle n'est pas pleine et elle doit être partagée avec ceux ou celles qui ont cette connaissance. Alors, qui peut l'avoir ? Peut-être l'entraîneur, celui qui sélectionne les données. Peut-être personne. Et ça,
Mais c'est très compliqué. Si personne n'est finalement responsable de ce que va devenir et de ce que va faire la machine...
Et c'est plus que compliqué parce que c'est d'un côté compliqué et d'autre côté, c'est un problème omniprésent, ubiquitaire. Il est partout parce que les systèmes apprenants que nous commençons à utiliser un peu à tous les moments de nos vies, les systèmes apprenants très souvent ne sont pas explicables. Ils font ce qu'ils font, mais on ne sait pas. Ils le font de manière très efficace, mais on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas mettre derrière un petit récit avec des mots de langage humain pour expliquer ce qui s'est passé dans la machine.
On sait mettre de côté et préserver le code. Par exemple, le code source, qui essaie de se faire aujourd'hui, notamment l'officier Roberto Di Cosmo, dans une bibliothèque universelle des logiciels. On sait mettre de côté des traces, mais lisibles par un informaticien.
Et même pas toujours. Parce que du moment où le système apprend, vous pouvez très bien connaître son code, mais vous ne connaîtrez pas son comportement. Parce que les trajectoires précises dépendent de l'apprentissage. L'apprentissage est trop complexe pour que l'homme puisse y comprendre quoi que ce soit. Du coup, c'est un comportement qu'on appelle non explicable, non interprétable. Et la question de la responsabilité est vraiment posée au grand jour. Parce que si personne ne peut connaître le comportement de la machine, est-ce que quelqu'un peut en être responsable ? Peut-être la machine elle-même, mais on ne sait pas trop ce que ça veut dire, parce que ce n'est pas une personne.
C'est pas une personne, puis elle n'a pas une morale.
Voilà,
enfin...
Donc il faudra faire partager cette responsabilité entre plusieurs agents humains. Et c'est même l'argument central de mon livre. Il faut faire en sorte que la machine ne soit pas un agent moral, parce que l'éthique... sans parler même du droit, le droit évidemment, mais aussi l'éthique est aux hommes. Et il faut la laisser aux hommes. Donc il ne faut pas mettre la machine dans la situation où la machine fera un choix moral, parce que la machine n'est pas justement un agent moral, c'est un agent fonctionnel qui n'est pas libre.
Mais la question, elle se pose partout. Hein. Le robot, enfin la machine est un agent fonctionnel qui n'est pas libre, mais ces robots autonomes, ils sont partout. Ça peut concerner, je ne sais pas moi, un aspirateur robot ou même une tondeuse robot, j'en ai vu ce week-end, autonome, qui peut blesser quelqu'un. La question se pose aussi évidemment dans l'armée, hein, les robots tueurs, mais pas seulement. C'est vraiment une question qu'il faut mettre en avant et qui semble aujourd'hui insoluble, peut-être pas aux philosophes, physiciens et penseurs que vous êtes, mais qui semble pour le moment kafkaïenne.
Exactement. Donc je viens de dire, il ne faut pas que la machine soit un agent moral, mais la machine provoque des conflits tout le temps. Et c'est même normal, je veux dire, c'est juste un fait d'usage omniprésent, comme vous dites, partout des machines. Donc la machine provoque des conflits parce que tel robot peut, par exemple, nous toucher un bras ou même nous casser un bras. Un agent conversationnel peut nous injurier, dire des choses pas très agréables. Donc des conflits de toutes sortes, pas seulement la mort d'une personne sous les roues d'une voiture autonome. Alors comment, sachant qu'il y a des conflits tout le temps provoqués par les machines, ne pas faire de ces machines des agents moraux, parce qu'on projette la morale spontanément sur
elles. C'est ça, ne pas les diaboliser ou au contraire ne pas les rendre...
Et là, je pense que le recours au hasard joue ici un rôle absolument fondamental.
Je m'accroche à la table, mais pourtant j'ai lu votre essai, le recours au hasard. C'est-à-dire que les machines, il ne faut pas les laisser devenir des personnes morales, ou leur laisser ce rôle-là. Donc il vaut mieux laisser ça au hasard.
Je pense que pour les aides fonctionnelles, il y a un enseignement du mythe, que je tire d'ailleurs d'une histoire mythologique très intéressante, il y a un enseignement absolument fondamental. Un être fonctionnel, du moment où il est impliqué dans un conflit éthique avec les utilisateurs, cet être fonctionnel ne doit pas devenir un agent moral, mais comment faire pour le soustraire au jugement moral ? C'est que s'il a détecté le conflit, s'il a compris, entre guillemets, qu'il s'agit d'un conflit dans lequel l'utilisateur donc, est impliqué, il tire au hasard, il tire au sort. Il utilise le hasard dans ce cas-là. Et ça semble d'abord, d'emblée, complètement contre-intuitif. Oui. Ouais. Mais après, quand on y réfléchit, et j'espère que j'ai essayé en tout cas de convaincre les lecteurs, que c'est pour les aides fonctionnelles la seule manière de se soustraire aux conflits éthiques des hommes.
De tirer au sort, de tirer au hasard. On va y revenir parce que c'est là où vraiment ça déplace quelque chose en nous. J'ai envie de m'arrêter quand même avant sur une question d'un de nos auditeurs à Libreville au Gabon. Il s'appelle Gaël et il nous rappelle cet exemple. Il y a quelques années, les algorithmes de Google ont identifié une femme noire comme étant un gorille. Donc il dit, est-ce que la responsabilité de tels impairs, de ces machines, sera-t-elle strictement du fait de la machine ? Est-ce que l'essor des machines va faire de nous les hommes des passifs face à ce genre de choses. Qu'est-ce que vous répondez par rapport à ça ?
Alors, dans cette histoire-là, il s'agissait d'un biais dans les données d'entraînement, donc dans les données d'apprentissage. Ces données portaient sur les personnes blanches, enfin européennes, caucasiennes, et il n'y avait pas assez de personnes noires dans les données d'apprentissage.
Apprise à l'ordinateur.
La machine n'a pas pu l'apprendre. Il y a deux choses intéressantes à dire. D'abord, qui en est responsable ? Sûrement l'entraîneur. Sûrement celui qui a choisi les données pour l'apprentissage. Donc justement, pas le programmeur, mais l'entraîneur, celui qui a sélectionné les données. Alors, deuxième question intéressante, c'est mais la machine en est-elle responsable ? La machine a-t-elle pu comprendre qu'il y avait un problème là ? Mais non, la machine ne comprend rien. Justement, la machine apprend sans comprendre. Et c'est même la source principale de conflits éthiques, c'est que la machine, elle imite, elle apprend par imitation, par ce geste mimétique, donc à partir des données.
Plus elle voit d'images, de voitures, d'hommes, de femmes, noirs ou blancs.
Elle ne comprend pas, elle ne sait pas ce que c'est pour nous, une femme ou un gorille. Elle imite tout simplement les données, mais elle ne comprend pas comme nous les comprenons. Et c'est pour nous vraiment encore plus contre-intuitif que ce que je viens de dire sur le hasard, parce que du moment où le cerveau humain reçoit des données, il les interprète comme étant à propos de quelque chose, à propos des femmes, des gorilles, etc. Toujours à propos d'eux. La machine, non. Pour la machine, ce sont des éléments abstraits, mathématiques. Ce ne sont pas des concepts de langue naturelle à propos de quelque chose.
Elle ne pense pas, la machine.
Voilà, elle ne pense pas, elle ne comprend pas. Et donc, ça, c'est vraiment la source fondamentale des problèmes éthiques, apprendre sans comprendre, comment peut-on vivre en société avec des aides fonctionnelles qui ne comprennent pas.
Grande question que je propose de méditer autour de la question des robots et du mal avec ce morceau de Rag & Bone Man sur RFI, Human After All, nous sommes humains après tout.
Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? You see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me, don't put your blame on me. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put the blame on me. Lord heavens above.
Rag and Bone Man sur RFI Human autour de la question pourquoi et comment les robots et nos technologies numériques nous reposent à nous qui ne sommes que des humains. Cette c'est lancinante question du bien et du mal. Nous sommes en compagnie du philosophe et physicien Alexei Greenbaum qui vient de publier Les robots et le mal, essai troublant dont nous avons un exemplaire à vous faire gagner, amis auditeurs, si vous nous le demandez par mail ou sur notre page Facebook, car les robots nous interrogent tous. Les robots sont d'ailleurs au cœur de la toute nouvelle exposition permanente de la Cité des sciences et de l'industrie à Paris, qui ouvrira demain ses portes au public. Parmi les artistes qui s'interrogent et que les robots interrogent, Aurélien Bory, metteur en scène, chorégraphe et plasticien, qui s'inspire des robots et de notre relation avec eux. Il en avait déjà tiré un spectacle intitulé « Sans objet ». Aujourd'hui, au sein de l'exposition, il a créé l'installation Trop beau. Charlie Dupuy, notre reporter, l'a rencontré face aux deux bras armés de son installation en cours de finition. Des robots de 3,50 m de haut qui saisissent et déplacent en désordre de grandes lettres noires R-O-B-O-T. Aurélien Bory au micro de Charlie Dupuy.
Alors dans cette installation, c'est deux robots industriels qui tentent d'écrire le mot robot. Et puis finalement, en essayant d'écrire le mot robot, bah, il se trompe, enfin, il n'y arrive pas tout à fait, et c'est comme ça qu'apparaît le mot trop beau, en fait, le titre de l'installation. Et c'est vrai que c'est un peu aussi ça, ce mot robot. Ce mot robot, il était trop beau.
Alors ces deux robots, pour les décrire, sont comme des grands bras noirs, très imposants, plus grands que nous.
Oui, c'est des bras articulés six axes, c'est les robots qu'on voit dans l'industrie. Ce sont les premiers robots parmi les hommes, hein, puisque c'est le robot industriel, c'est le premier robot qui a été inventé dans les années 60. Et le mot robot les a précédés. Lui, il vient d'une pièce de théâtre de Čapek de 1921. Le mot robot vient du mot tchèque robota, qui signifie travail, besogne. Il a eu beaucoup de succès ce mot, puisqu'il s'est internationalisé, hein, le mot robot existe dans toutes les langues, et il est devenu aussi, c'est la porte ouverte, le mot robot, vers toutes les fantasmes, toute la fiction, toutes les peurs, toutes les projections qu'on peut avoir, surtout les inquiétudes, mais aussi des fois l'excitation, l'espoir que ce mot robot peut susciter, est souvent assez éloigné en fait de la robotique réelle. Donc là l'idée c'était vraiment que la robotique réelle, deux robots industriels se confrontent au mot robot, un peu comme si le réel se confrontait à la fiction. Mais c'est effectivement ce qui m'intéressait dans le robot industriel, c'est que c'est le premier robot parmi les hommes.
Vous êtes metteur en scène, qu'est-ce qui vous intéresse dans cet objet-là, dans ce mouvement ?
Il y a beaucoup de grâce en fait dans leur mouvement, et la beauté peut surgir même de ce tas de technologies, de tuyaux, de mécaniques. Et c'est ça qui est étonnant, on voit un peu cette puissance, ces bras qui sont puissants, mais en même temps ils sont tellement délicats, tellement précis, ils font des choses tellement étonnantes. Donc il y a le plaisir du mouvement, il y a le plaisir de ce balai mécanique qu'on a sous les yeux, et je crois que d'ailleurs on a toujours pris plaisir, l'homme a toujours pris plaisir au balai mécanique. Quand on regarde la technologie, finalement on parle de l'humain. Donc la machine nous permet de nous représenter en fait autrement, ou d'interroger en fait l'humain. C'est l'humain que ça interroge.
C'est l'humain que ça interroge, les robots ou les trop-beaux du plasticien chorégraphe Aurélien Bory, interrogé par Charlie Dupuy dans la nouvelle exposition permanente sur les robots de la Cité des sciences. Vous voulez réagir, Alexei Greenbaum ?
Oui, j'apprécie beaucoup Aurélien Bory. Je ne sais pas si vous avez remarqué une certaine douceur dans sa voix au moment où il parle de ses bras, de leurs mouvements gracieux.
Il est chorégraphe et
il les aime.
Exactement.
Il les aime,
et voilà. Il fait danser les robots comme il fait danser les hommes.
Mais, ce n'est pas que lui, je veux dire, aussi n'importe quel utilisateur. Il entre dans ce rapport affectif avec sa machine et il projette des émotions sur la machine, et c'est normal, c'est comme ça qu'on interagit avec les systèmes autonomes, mais on les appelle, on leur donne des petits surnoms, on projette aussi le jugement du bien et du mal sur ces machines. Mais ce qui m'interroge, c'est, j'apprécie beaucoup Aurélien Bory et son œuvre, ça me fait penser à une autre œuvre où il y avait aussi deux robots, mais ceux deux-là n'avaient pas de finalité précise comme de fabriquer le mot robot à partir de lettres, mais devaient juste, donc à deux bras mécaniques, la même histoire, mais devaient simplement imiter l'un l'autre. Alors, Vous voyez, donc on retrouve cette histoire d'imitation mutuelle. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Un bras devait imiter un autre.
Un bras devait imiter le bras qu'il avait en face, et celui qui était en face devait imiter le premier. Et c'était la seule règle du comportement. On aurait pu penser que ses bras allaient, par exemple, se serrer la main ou faire des choses magnifiques. Mais malheureusement, on a découvert, en faisant cette expérience, que assez rapidement, assez vite, ses bras ont appris à se déchirer elles-mêmes, à déchirer les câbles qui les nourrissaient. Et donc, cette situation d'imitation mutuelle, justement, adhérait assez vite au conflit, enfin, au conflit, je veux dire, à la mort, entre guillemets, de ses bras, parce que ses bras n'avaient pas assez de contraintes, n'avaient pas assez de limites, ne savaient pas où il ne fallait pas aller, jusqu'où il ne fallait pas aller dans l'imitation mutuelle. Et donc, vous voyez, là.
On est vraiment dans le mal. Enfin,
on
le
est
mal
vraiment,
et le bien.
Je pense, j'espère que là, avec cette œuvre de Haëlian, on verra aussi le problème de fond qui est au cœur de l'éthique des systèmes autonomes, c'est ce problème d'imitation.
Ah, c'est ça même, c'est cela même qui les met en position de faire du mal au fond. C'est une question d'imitation ou c'est une question, il leur faut des limites ?
Sans comprendre, justement, imitation, mais il n'y a pas de compréhension.
Voilà, vous l'avez dit, ils apprennent, ces machines apprennent sans comprendre, mais elles apprennent beaucoup mieux, beaucoup plus vite que nous, en plus grande quantité, mais sans comprendre ce qu'elles font, et donc jusqu'où, et ça a bien de quoi nous faire peur.
Dans l'œuvre d'Aurélien, je ne l'ai pas encore vu, mais il a dit « ces machines se trompent et font trop beau à la place de robots ». Mais ces machines ne savent pas qu'elles se trompent. Hein, c'est l'homme qui interprète ce qui se passe. Ces machines réalisent une fonction codée par le concepteur ou par Aurélien Boy. Et donc ça, c'est très intéressant à penser, justement, ces machines n'ont pas du tout la même interprétation des faits que celle des hommes.
On y revient, hein, ces machines n'ont pas de morale, même quand on dit qu'ils sont inhumains, ou, enfin, c'est toujours par rapport à nous-mêmes. Donc comment faire ? Vous avez commencé à aborder le hasard, et à nous dire finalement, puisqu'ils n'ont pas des bras, puisqu'ils n'ont pas de jugement, pourquoi ne pas nous en remettre au hasard ? Et là, on en revient aux mythes, aux mythologies, aux tragédies. Enfin, le hasard a eu un grand rôle dans notre vie. Et quand on ne sait pas comment faire, quand on est face à ces machines, comment le hasard pourrait nous aider à sortir de ces dilemmes de bien et mal ?
J'ai une réponse très courte et ensuite je vais la commenter. La réponse, c'est ça. Si on ne le fait pas, si on ne fait pas recours au hasard, qu'est-ce qui va se passer ? Simplement, on va jeter la machine à la poubelle ou conduire la voiture autonome à la déchetterie. Simplement, on va débrancher ces systèmes-là. Pourquoi ? Prenons un exemple. Il y a quelques mois, en novembre, je crois, 2018, Google, qui fait des logiciels de toutes sortes, en particulier, fait un logiciel qui prolonge pour nous les phrases que nous commençons à taper sur le clavier. Et il propose de compléter la phrase automatiquement. Alors, Google s'est rendu compte que les pronoms personnels, il ou elle, en anglais, he or she, ne sortaient pas toujours correctement. Parfois, il y avait des problèmes. Alors, parfois, le système ne savait pas que ingénieur, ça devait être elle et pas il dans ce contexte-là, etc. Ou docteur, ou des mots comme ça. Alors, donc problème de genre, a dit Google. Oh là là, vous savez, aux États-Unis aujourd'hui, les problèmes de genre sont vraiment
attention,
très...
trop attention. Touchy.
Google a dit, ah, notre logiciel n'utilisera plus jamais les pronoms personnels. Point barre. Plus jamais il ou elle, au lieu de dire comment va-t-il, elle va dire comment ça va. Et du coup, la langue que parle cette machine sera un peu inhumaine.
Ah, complètement, oui.
Parce que nous utilisons bien sûr les pronoms personnels. Et donc, pour ne pas jeter à la poubelle cette fonction tout à fait humaine de dire elle ou il ou elle, pour ne pas désactiver ces éléments très humains, il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire ? Bah, il faut, si un seuil de détection de problème est passé, un certain seuil à définir, il faut, selon moi, tirer au hasard et informer l'utilisateur que le pronom il ou elle a été tiré au hasard. Donc,
et que finalement, en tirant au hasard, on a moins de chances qu'il se trompe. En tout cas, on évite de ne pas traiter le problème.
On évite de juger la machine comme étant coupable. C'est ça ce qui est central. La machine, dans ce cas-là, ne sera pas un agent moral. Elle a choisi au hasard. C'est une pure fonction. Il n'y a aucun choix éthique derrière. C'est du hasard. Et du coup, l'homme ne mettra pas à la poubelle cette machine-là, j'espère, parce que la machine est purement fonctionnelle dans ce cas-là. Ça n'est pas du tout un agent moral. Ça n'est pas un sujet éthique.
Et du coup, l'homme qui s'en sert, ce que vous nous dites aussi, c'est qu'il faut, en laissant cette place au hasard, en nous informant qui a ce hasard dans nos machines, ça nous déplace nous-mêmes un petit peu face à nos machines. Ça nous rappelle que ce sont des machines, même si on s'identifie à eux, même si on leur parle gentiment, même si on s'énerve quand ils ne marchent pas. Ça nous rappelle qu'au fond, ben oui, ce sont des machines qui nous servent. C'est ça aussi.
Et juste au moment central, au moment du conflit, je ne dis pas du tout qu'il faut tirer au hasard dans tous les cas de figure.
Bien sûr.
Conflits sont assez rares, en fait. Par exemple, les cas où la voiture autonome doit décider qui sera tué ou qui sera...
quel
objet
ou
sera endommagé sur la route ou ce genre de choses. Ces cas sont très très rares, peut-être 0,001%, donc vraiment pas du tout fréquent. Mais dans ces cas-là, si le conflit est détecté, ce qui est déjà une tâche énorme, mais si le conflit est détecté, la machine doit se soustraire au champ de l'éthique. Voilà ce que je dis.
Elle doit se soustraire au champ de l'éthique, mais moi ce que je dis aussi, c'est que du coup, il faut qu'on le sache nous-mêmes, nous, êtres humains. Ça peut nous permettre de prendre ce recul-là, d'être pas dans la diabolisation, ni dans la béatification des machines, mais de dire non, c'est pas ce que vous dites, ce sont des entités fonctionnelles, c'est ça.
Absolument, et c'est un élément même fondamental de la confiance dans les machines. Mm-hmm. Je pense que pour que l'homme ait cette confiance et continue à l'avoir malgré le fait que les machines seront impliquées dans les conflits, mais bien sûr qu'elles le seront. On ne peut pas faire des machines juste pour le bien de l'humanité. Il y aura tout un tas de conflits. Malgré ces conflits, on continuera à faire confiance, on continuera à les utiliser. Qu'est-ce qu'il faut faire pour cela ? Mais justement, dans les cas de conflits, il faut soustraire les machines au champ de jugement éthique.
Risquer de faire face au hasard. Voyez jusqu'où nous entraîne cette question des robots et du mal, ou plutôt du mal, reposé aux humains que nous sommes par les machines et les robots que nous avons créés. On retourne au mythe originel avec vous et avec Adam et Ève en couverture de votre essai sur les robots et le mal, et en musique tout de suite avec MC Solar sur RFI, Adam et Ève.
Ils étaient nus, mais ils n'en avaient pas honte. Pas honte. Pas honte.
Adam et Ève. Le froid et la neige font qu'ils se retrouvent ailleurs.
Adam et Ève.
Le serpent et la pomme font qu'ils se retrouvent ailleurs.
Ça commence dans l'Éden, paysage de rêve. Adam croque la pomme et il accuse Ève. Elle met tout sur le serpent mais personne tombe dans le piège. Alors il saute du paradis. Moi c'est Ève et lui c'est Adam. On est arrivé ici, on ne sait pas comment. Il ne m'a rien donné depuis la Genèse. Je ne porte qu'une feuille, je mérite du courage. Adam sent le truc, lui dit reste sage. Tente de la raisonner mais cela foire, dommage. La riposte cogne, la gauche est bonne. La droite le sonne, Adam tombe dans les bords.
Le froid et la neige font qu'il se retrouve ailleurs.
Adam et Ève.
Le serpent et la pomme font se retrouve ailleurs. Comme on trouve pas le couple à l'état civil, on les transfère chez des experts qui sont dans la grande ville. Pour savoir s'ils viennent vraiment de l'Éden, on leur propose l'hostie, ils répondent pas de gluten. Le good cop et le bad cop sont vénères. Ils cherchent un annuaire mais y a plus d'annuaire. Puis ils les laissent partir en leur disant de nachave. On ne voit pas dehors le soir en train de bicrave.
Et c'est là qu'ils voient les autos, le métro, le boulot, dodo, la popo qui cherche la popo. Des ados qui vendent la popo, les KO, des mecs à l'hosto. Des pressions sur les points vitaux, des gogo dans sa gogo. Des gros lolos pour les gogo, des dollars à sur la rigo. Des euros et puis des lingots, des victoires dans des frigos, disparaître comme des dodos. Du harame dans des bocaux, Adam veut du Valium. Elle voit un médium, puis tombe dans les formes.
Adam et Ève, MC Solar sur RFI, en clin d'œil à votre essai, à sa couverture, Alexei Greenbaum, les robots et le mal, dont nous avons un exemplaire, amis auditeurs, à vous faire gagner si vous nous le demandez par mail ou sur notre page Facebook. Autour de la question pourquoi et comment les robots et l'omniprésence de toutes nos technologies numériques nous forcent à repenser le mal, mais aussi le bien, je vous propose, Alexei, d'écouter un philosophe, polytechnicien également, que vous appréciez particulièrement, Jean-Pierre Dupuis, qui défend un catastrophisme éclairé pour penser justement, repenser notre époque. On l'écoute.
On peut dire les choses les plus opposées au sujet de l'époque que nous vivons, et elles sont également vraies. C'est la plus exaltante et c'est la plus effrayante. Il nous faut penser à la fois l'éventualité de la catastrophe et la responsabilité peut-être cosmique qui échoit à l'humanité pour l'éviter. Non, notre responsabilité ne s'adresse pas aux générations futures, ces êtres anonymes et à l'existence purement virtuelle, qui peut-être d'ailleurs jamais n'existeront si nous faisons sauter la planète avant. C'est par rapport au destin de l'humanité que nous avons des comptes à rendre, donc par rapport à cela même qui nous dépasse. Si nous devions être la cause de ce que la porte de l'avenir se referme, c'est le sens même de toute l'aventure humaine qui serait à jamais et rétrospectivement détruit. C'est moins l'avenir qui a besoin de nous que nous, nous n'avons besoin de l'avenir, car c'est lui qui donne sens à tout ce que nous faisons.
Vous voulez réagir, Alexei Greenbaum, au propos de ce philosophe que vous appréciez particulièrement, Jean-Pierre Dupuis ?
Oui, j'apprécie beaucoup la pensée et l'œuvre de Jean-Pierre Dupuis. Depuis le catastrophisme éclairé, il a écrit plusieurs livres, dont en particulier La marque du sacré, et puis un autre essai sorti très récemment dans la même collection que mon livre.
Chez des clés de Brouwer.
Mais pour réagir, je vais peut-être raconter une petite histoire. La porte de l'avenir qui se referme, cette image que Jean-Pierre Dupuis tire de Dante et que je cite aussi dans le texte de mon livre. Alors, l'histoire, elle est tirée d'un livre qu'on ne lit que très rarement, du livre de Tobie, un des livres du corpus biblique. Alors, dans ce livre, Tobie est un jeune garçon de 16 ans qui part pour la première fois de la maison de ses parents. Il est accompagné d'un ange, de l'archange Raphaël. Et puis, il a de la chance, peut-on dire. Au soir du premier jour, vous savez, à l'époque, il n'y avait pas d'hôtel. Donc, au lieu de prendre une douche, il descend dans un fleuve pour se laver. Et dans ce fleuve, il voit un énorme poisson qui s'approche de lui. Il a très peur. Il est très effrayé parce que ce poisson, il crie, il va l'avaler, il va le tuer, il va le manger. Et Tobie est tellement effrayé que l'ange qui est resté sur terre sèche, il croit nécessaire de réagir. Et que fait-il ? Il ne dit pas « Tobie, calme-toi, Tobie, fais-moi confiance, Tobie, n'aie pas peur ». Non, 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 il ne dit pas « n'aie pas peur ». Il dit « Tobie, prends ce poisson par les ouïes et tire-le à toi ». Ce qu'ayant fait, comme dit le récit, Tobie donc a été capable de tirer ce poisson sur terre sèche et l'ange lui dit « Prends le foie, le fiel de ce poisson, tu en feras d'utiles remèdes, des médicaments ». Donc c'est cette finalité médicale même du travail que Tobie va accomplir étape par étape. Et là, on peut se poser plein de questions, il faut toujours interpréter le mythe. Alors, le poisson était-il petit ou grand ? Comment est-ce possible que Tobie, qui avait tellement peur, qui était tellement effrayé, quelques secondes plus tard, il ait réussi à l'attraper, à le tirer sur terre sèche, le poisson était-il petit ou grand ? Moi, je pense que c'est la peur de la nouveauté. Il y a évidemment d'autres interprétations possibles. Pour moi, Tobie simplement a vu pour la première fois un poisson. Il a quitté la maison de ses parents pour la première fois et donc il n'avait jamais vu de poisson.
Il était pris par la peur, il a fallu que l'ange, donc une entité...
une entité fonctionnelle, justement, une entité fonctionnelle qui, dans ce cas-là, sert à expliquer à Tobie la procédure finalisée. Alors cette procédure, 1, 2, 3, 4, 5, à la fin, permet de produire des médicaments. Et du coup, la peur de Tobie se dissipe complètement. Et donc, cette peur de la catastrophe, peur de ce grand poisson qui va nous avaler tous. Il ne faut pas dire « n'ayez pas peur, faites-nous confiance, nous, avec nos nouvelles technologies que nous vous proposons, nous allons vous guider vers un avenir meilleur ». Voilà. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il faut expliquer toujours quelle est la finalité et puis donner une procédure à suivre, 1, 2, 3, 4. Et ça, c'est important, cela reste fonctionnel. Donc, ça souligne vraiment le caractère fonctionnel de ces individus numériques qui nous entourent, qui ne sont pas des personnes. Et deuxièmement, donc, pour garder ouverte cette porte sur l'avenir, cette porte dont parle Dante et dont parle Jean-Pierre Dupuis, ce qui est important dans ce cas-là, c'est de ne pas faire de slogans politiques de type « faites-moi confiance », mais de laisser les machines réaliser leur fonction, comme l'ange qui permet à Tobie de faire les médicaments. Et donc, comment permettre aux machines de réaliser ces fonctions, malgré toutes les peurs, malgré tous les conflits ? C'est un peu l'argument de mon livre, c'est-à-dire ne pas faire de machines des agents morts.
Et donc, voilà pourquoi vous laissez de la place au hasard dans votre livre. Voilà pourquoi vous convoquez la mythologie, les textes bibliques, mais aussi la littérature, le cinéma. Un essai passionnant que je ne saurais trop conseiller à nos amis auditeurs et internautes. Vous pouvez d'ailleurs gagner un exemplaire. Il nous en reste un à vous faire gagner, qui s'intitule « Les robots et le mal », signé Alexei Greenbaum aux éditions Des Clés de Brouwer. Alors aujourd'hui, Alexei Greenbaum, je vais vous faire utiliser aussi un peu votre casquette de physicien, parce qu'on a beaucoup entendu celle du philosophe aujourd'hui 1er avril, coïncidence ou pas. Ce sera tout à l'heure la première nuit de l'antimatière dans toutes les grandes villes de France, à l'initiative du CNRS qui fête ses 80 ans cette année, à l'initiative de la Société Française de Physique et de votre organisme de recherche, Alexei, le CEA. Alors conférences, débats, quiz et même séances de ciné au Grand Rex à Paris autour de l'antimatière. Allez, vous avez une minute pour nous expliquer ce que c'est que l'antimatière et pourquoi il ne faut pas en avoir peur là non plus.
Alors voilà, le poisson de Toby et le poisson d'avril, l'antimatière n'est pas un poisson d'avril. C'est déjà la première chose à savoir. On a fait plein d'expériences très très intéressantes avec cette substance qui fondamentalement est composée comme la matière, sauf que toutes les composantes sont des antiparticules, des antipodes, des particules qui composent la matière habituelle, celle qui nous entoure absolument partout dans notre galaxie, etc. Un atome d'hydrogène, oui, mais toutes les composantes sont des antipodes des composantes habituelles. Voilà. Alors, évidemment, quand l'antimatière rencontre la matière habituelle, ça annihile, ça disparaît. Hein. Il y a du rayonnement, des photons qui en sortent. Cela veut dire qu'il est très 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 difficile de faire des expériences avec l'antimatière parce qu'il faut l'isoler, il faut la préparer dans un état où elle n'a aucune chance de rencontrer de la matière. Cet univers à l'envers.
Univers à l'envers.
Cet univers à l'envers est-elle possible? En principe, dans notre univers d'ailleurs, il devrait y avoir autant d'antimatière que de la matière. On devrait trouver quelque part des galaxies entières faites d'antimatière comme la nôtre est faite de la matière habituelle. Peut-on trouver quelque part ce monde à l'envers? C'est une question intéressante.
Grande question en physique et métaphysique.
Oui. Alors
ceci
là,
dit, si nous sommes là, c'est parce qu'il y a de la matière hein, et pas que de l'antimatière. Hein, parce qu'il y a plus de matière que d'antimatière.
Tout à fait. Et la brisure de cette symétrie, qui est un peu aléatoire, hein, comment le hasard intervient-il là, non pas en éthique, mais en physique, pour briser cette symétrie des équations fondamentales entre la matière et l'antimatière? C'est une grande question que les physiciens se sont posées depuis quelques décennies.
Pour en débattre, c'est cette nuit, la nuit de l'antimatière, dans toute la France en tout cas. Merci infiniment Alexei Greenbaum.
Pour nous contacter, autour de la question, @rfi.fr.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. Les robots et le mal et l'antimatière. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster à volonté sur le site de RFI et sur l'appli RFI Pure Radio. Au plaisir de vous retrouver demain, chers amis auditeurs, pour nous interroger sur les liens originels, vitaux, qui nous unissent, nous les hommes, aux cours d'eau, aux fleuves et aux rivières. Une histoire d'eau qui est aussi une histoire de notre humanité à suivre demain avec Hugo Violas à la réalisation et Juliette Brault en coulisses. Merci de votre curiosité. Gardez l'esprit libre et ouvert. À l'écoute de RFI, ce sera l'heure d'un prochain journal dans une minute.